tous, la Grande Table entame sa dernière semaine estivale, toujours aux côtés des artistes. À 13h50, François Sureau fera escale à Elbeuf, ville natale d'Émile Herzog, plus connu sous son nom de plume André Mauroy. Mais avant cela, nous allons nous pencher sur d'autres livres, ceux de la rentrée littéraire, comme Une bête aux aguets. C'est le titre du roman de Florence Sévos, publié aux éditions de l'Olivier, qui immerge le lecteur dans les torpeurs de l'enfance et de ses métamorphoses, une traversée en eau trouble, dans un flux de conscience instable et poétique, depuis lequel les frontières entre soi et le monde ne cessent de se déplacer. Puis l'écrivain Camille de Toledo nous fera franchir d'autres frontières géographiques et temporelles avec Thésée, sa vie nouvelle, publiée aux éditions Verdier, une enquête littéraire sur les traces d'un passé enseveli dont le narrateur entreprend de compléter le récit. Nous accueillons aujourd'hui successivement autour de la grande table les auteurs Florence Sévos et Camille de Toledo. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour Florence Sévos.
Bonjour Maëlys Besserie.
Alors voici la dernière bête, hein, la bête aux aguets cette fois-ci. On est à nouveau plongé dans l'enfance, ce qui n'est pas nouveau vous concernant, mais cette enfance-là est assez trouble. Hein. C'est un récit à la première personne, on se retrouve... comme le lecteur se retrouve dans les sensations de cette jeune fille de 12 ans, en tout cas au début du récit.
Oui, au début du récit, elle a 12 ans, et à peu près cette année s'écoule, ensuite jusqu'à la fin du livre. Et 12 ans, c'est souvent un âge, enfin, évidemment c'est un âge particulier. Chez l'écrivaine Flannery O'Connor, c'est la limite, un enfant de 12 ans est au sommet de son intelligence. Après, il décline. Et dans les récits fantastiques, évidemment, c'est l'âge de l'arrivée du danger. C'est l'âge des métamorphoses.
Et c'est tout ça dans ce livre-là qui se passe. Hein. Il y a des éléments évidemment magiques. Florence Sévos, mais qui arrive sous des voies un peu méconnues, c'est-à-dire que cette transformation du corps, de l'esprit, comme on est dans cette première personne comme ça, qui arrive comme un flux, on voit petit à petit que le monde passant à travers elle est bien étrange. Toutes les proportions, tout est un peu changé. C'est une écriture qui passe beaucoup par les sensations presque corporelles du monde autour.
Oui, c'est vrai, c'était... Enfin, j'étais moi-même un peu surprise en fait que ces sensations me soient si familières et d'avoir cette espèce d'acharnement à les décrire. Je ne sais pas comment c'est venu au départ. Enfin, sûrement d'une fréquentation assidue, un peu obsessionnelle de romans, soit fantastiques, soit flirtants avec le fantastique. De films aussi auxquels j'ai été attachée très jeune.
Mais vous avez quel film en tête?
Par exemple un des derniers que j'ai vu et qui a compté pour moi, c'était il y a quelques années, c'était un peu une révélation. C'était un film suédois qui s'appelle Morse, en français le titre original que je ne vais pas prononcer en suédois était Let the Right One Come In, c'est un film de Thomas Alfredson, et c'était l'histoire d'une jeune fille vampire et j'avais été frappée par la beauté du scénario et le film avait fait très forte impression sur moi. C'était un film intimiste, très poétique, très intense.
Le vampire n'est pas complètement absent non plus, Florence Sévos, du récit, ou en tout cas il y a quelque chose du fantôme, du spectre, puisque cette jeune fille est tirée vers, on ne sait pas, on parle de folie, on ne sait pas trop, en tout cas il y a une bascule qui se fait dans sa vie, dont on ne sait pas si c'est une métaphore ou pas d'ailleurs, peut-être vous pouvez nous le dire, d'une bête qui est en train de germer en elle, et qui est en train de la changer.
Oui, c'est à la suite d'une maladie. Elle a une maladie étrange, beaucoup de fièvre, ça ressemble à une pneumonie, et sa mère ne l'emmène pas à l'hôpital, et elle reçoit un traitement, en fait l'intervention d'un médecin un peu étrange, dont on découvrira par la suite qu'elle l'a déjà rencontré enfant, et elle guérit assez miraculeusement. Et elle a un traitement à prendre, des comprimés blancs, des comprimés bleus, avec des règles très strictes. C'est un traitement qu'elle n'a pas le droit d'interrompre, lui dit sa mère. Et en fait, à partir de sa guérison, elle commence à sentir des changements qui se sont opérés en elle, et qui sont de diverses sortes. Par exemple, elle entend des voix qui arrive comme elle sait qu'elle est seule à les entendre. Elle a l'impression aussi d'avoir une sorte de pouvoir. Par exemple, il est possible qu'elle ait la possibilité de l'éviter. Voilà, il y a des choses très diverses comme ça qui lui arrivent, et c'est un petit peu en fait comme si une membrane était devenue trop perméable chez elle, quelque chose qui nous maintient dans la réalité normale, avec des sensations auxquelles voilà qu'on connaît, mais tout à coup quelque chose est devenu trop perméable, et elle perd un peu le sens de la réalité qui l'entoure, et une autre réalité qu'elle perçoit comme derrière un rideau se met à prendre de plus en plus de place.
Alors dans l'écriture, ce que l'on vous sent, c'est l'acuité. Pour être cette narratrice-là, il faut que tous les sens soient aiguisés. Et là, c'est la particularité de l'enfance, mais aussi d'une forme de folie, que d'être complètement à fleur de peau. En tout cas, cette écriture donne cette sensation-là, d'être comme complètement ouverte.
C'est vrai que dans l'enfance, en fait, on a souvent, on la perd ensuite, une grande attention. On a cette attention décalée au monde, qui n'est pas vraiment une attention à la réalité. Et puis on est très proche de ces sensations. Je pense que c'est lié à la forme de solitude particulière de l'enfance, où on est comme dans une bulle avec ses propres sensations et la façon dont on perçoit le monde. Et évidemment, ce sont des choses qu'on ne partage pas. Donc elles résonnent avec beaucoup d'ampleur dans nos têtes quand on est enfant.
Alors d'autant plus qu'on est dans sa vie antérieure. Je vous propose, Florence Sévaux, de nous en lire un extrait. Vous avez choisi, je crois, de commencer tout simplement par le début.
Oui.
On vous écoute.
Je me suis aperçue depuis quelque temps que je ne croyais plus au monde. Les escaliers du métro, ces couloirs et le claquement brutal des portes de sortie, je n'y crois plus. La table en bois à laquelle je suis assise, les pieds de cette table qui grincent un peu sur le parquet de hêtre quand je m'y appuie, l'appartement de la voisine sous le parquet, je n'y crois plus. Le téléphone que j'ai à la main, son boîtier de plastique noir, les fils et les rivets minuscules qui s'alignent à l'intérieur, je n'y crois plus. Je ne me lasse pas de mesurer la diversité, la spécificité presque perverse de tous ces objets, de tous ces lieux, ces constructions qui n'existent pas. Ils ne cessent de m'étonner. La bonde de la baignoire m'étonne. Je crois que nous sommes des consciences liées ensemble par une même illusion, lancées à pleine vitesse dans un univers dont le fracas nous ferait mourir de terreur si nous l'entendions. Nous nous croyons statiques alors que nous sommes secoués comme une coccinelle sur la main d'un enfant qui court. J'écoute des pas dans la rue, un chariot de livraison qui brinque-balle, et dans les intervalles sous le silence, il me semble entendre le grondement lointain de rochers qui se cognent et explosent. J'ai l'impression qu'il me suffirait de tourner un bouton, de changer la balance entre ce que mes oreilles perçoivent et ce que j'entends vraiment, et le fracas envahirait tout. J'en deviendrais sourde. La nuit, j'allume toutes les lumières, je ne fais rien, parfois j'arrive à lire. J'erre du salon à la chambre, je n'ai aucune pensée particulière en tête. J'écoute le bruit de mes pas, tantôt il me rassure et je m'accroche à lui comme à une présence amicale. Tantôt il m'effraie, comme s'il faisait de moi une cible. Je regarde les appartements encore éclairés dans l'immeuble d'en face, les éclats de lumière des téléviseurs. Souvent, tandis que je marche d'une pièce à l'autre, je m'arrête net, frappée de honte. Une chaleur cuisante me monte au visage avant que je puisse me souvenir exactement de ce que j'ai fait. Mais le sujet de ma honte n'est pas ce que j'ai pu faire. C'est ma personne tout entière.
Merci d'avoir lu Florence Evo. Ce que l'on perçoit, c'est que à travers la langue, c'est simplement cet ancrage précis dans les descriptions, le monde autour et des sortes de mécanismes en chaîne comme ça où elle imagine à l'intérieur de la description ici, je tourne la poignée, etc., qu'on se retrouve dans ce monde de l'enfance et on a toujours le sentiment d'être un peu trop adulte face au récit, de se dire que si on commence à réfléchir à sa folie, à la manière dont nous on analyse ce qui se passe, on n'aura rien compris au texte. C'est comme s'il fallait se décaler en tant que lecteur, se remettre à cette place-là de l'enfance.
Oui, se laisser aller un petit peu comme la narratrice le dit, changer un peu la balance entre ce que nos oreilles perçoivent et ce qu'on entend vraiment. Parce que moi, il me semble qu'on est assez nombreux à sentir ces décalages. Il y a comme une inquiétude qui ne trouve jamais son explication, sa raison, et je crois qu'elle est qu'elle réside dans cette ce vide qu'on ressent quand on est en soi, ce décalage par rapport à la réalité, à l'image qu'on donne.
Le monde du dedans et du dehors,
le monde du dedans et du dehors, et puis une perception parfois de plus en plus distordue de ce qui nous entoure. Parfois ça passe par la nature, parfois ça passe par la nuit, le silence, mais souvent on n'est pas très très éloigné de ces perceptions-là.
D'étrangeté.
Oui.
Alors vous dites, elle entend des voix. J'ai envie de dire, pour un écrivain, c'est la moindre des choses d'entendre des voix, Florence Evos, non?
C'est un peu nécessaire.
C'est la base.
Ouais. C'est la base. D'ailleurs, il y a plus loin dans le livre où la narratrice se demande si elle est folle. Et elle se dit qu'elle ne sait rien faire d'autre qu'écouter les murs respirer. Et oui, c'est un petit peu aussi notre cas quand on écrit.
À travers cette frontière de l'enfance et des sens, il y a aussi l'univers extérieur qui comporte sa dose d'étrangeté. On parlait des vampires, vous faites allusion à la nuit aussi. Il y a souvent des moments de bascule dans l'histoire qui se passent à la tombée du jour ou la nuit ou l'état de sommeil. N'est pas tout à fait clair, hein. On ne sait jamais si les cachets qu'elle prend, les comprimés qu'elle prend, donnent lieu à un état d'extase ou d'endormissement ou un état hallucinatoire. Et ça nous fait penser quand même à Alice au Pays des Merveilles et à cet univers-là qui existe aussi dans les motifs littéraires, Florence Evos.
Oui, souvent évidemment la tombée de la nuit, la présence de la nuit, le silence particulier... ouvre peut faire même monter une forme de folie. Mais alors les comprimés qu'elle prend, en fait, elle ne le sait pas quand elle commence à les prendre, elle le découvre au fur et à mesure, mais ils sont censés inhiber sa nouvelle nature et l'empêcher de basculer complètement.
Mais là, on a l'impression qu'il y a une grande métaphore de ce qu'est le fait de devenir adulte, d'une sorte de cadre parental comme ça qui vient dompter la bête qu'elle est encore.
Exactement.
Dans l'idée des adultes.
C'est drôle parce qu'en fait, il y a très longtemps, à propos d'un autre livre, une amie... m'avait dit, en fait, c'était à propos du garçon incassable, où il était question de l'éducation d'un jeune garçon handicapé. Et une amie m'avait dit, en fait, c'est comme une éducation normale, l'éducation que reçoivent tous les enfants, mais grossie à la loupe, ce que tu racontes. Et à un moment, en écrivant La Bête aux aguets, je me suis dit, je me retrouve à nouveau dans ce cas de figure d'une éducation grossie à la loupe, parce qu'il s'agit en fait de maintenir dans la civilisation un être qui, comme nous tous à la naissance, n'est absolument pas civilisé.
Et en même temps, on se demande si l'adulte l'est aussi, parce que finalement, il y a un moment où on se pose la question de la folie. D'où vient la folie? Est-ce que c'est la folie de la mère? Est-ce que c'est la folie de l'enfant? Il y a quelque chose d'un peu poreux comme ça dans ces allers-retours de perception.
Oui. Sûrement, il y a eu une autorisation de la mère. En fait, il y a une sorte de trio. Il y a la figure d'un homme qui a été à un moment le compagnon de la mère, alors qu'elle était toujours avec le père de cette jeune fille qui s'appelle Anna. Et donc, c'est une espèce de trio parce que cet homme un peu étrange, qui lui, pour le coup, dans le livre, est vraiment un peu un personnage fantastique. En fait, il y a eu une sorte d'adoption d'Anna par cet homme quand elle était très jeune. Il y a eu une rencontre brève et une sorte de reconnaissance mutuelle et d'adoption réciproque.
Avec même un nouveau baptême, hein. Il la renomme.
Oui, il la renomme, il lui donne un prénom qui lui semble mieux lui convenir. Et elle accepte ce prénom, et elle sent que cet homme l'a vue telle qu'elle était, l'a observée, l'a comprise, et elle en éprouve une gratitude. Et c'est comme si, en fait, la mère avait œuvré secrètement pour que cet homme devienne à son tour un peu le père de sa fille.
Alors, dans la structure narrative du livre, on est toujours avec ce personnage d'Anna, et en réalité, le découpage temporel, les lieux, tout ça reste un peu flottant, comme elle, justement, qui l'évite un peu. Et en même temps, on n'est pas vraiment perdu, c'est-à-dire qu'on suit ce chemin-là, on n'est pas vraiment dans une structure romanesque, classique. Florence Evos, comment est-ce que vous avez pu garder cette ouverture dans la narration jusqu'au bout de l'intrigue?
À un moment, je me suis inquiétée de cette narration flottante qui s'attachait à des moments très précis de ces 7 années. Mais c'est vrai que je sentais qu'il était nécessaire de faire de grosses ellipses, et aussi il était nécessaire qu'Anna grandisse, qu'elle arrive à un âge pas proche de l'âge adulte où elle commence à avoir une première histoire d'amour. Et puis j'avais pas envie de rester avec un personnage d'enfant ou même d'adolescente. J'avais envie qu'elle soit déjà un petit peu dans l'âge adulte. Enfin, d'ailleurs, le début du roman démarre dans le présent, alors qu'elle a à peu près 19 ans. C'est un flashback ensuite. Mais c'est vrai que ces ellipses me paraissaient nécessaires. En fait, surtout, je m'accrochais à des choses qui me venaient, qui pour moi étaient des moments clés de cette histoire un petit peu à cheval entre la folie et le fantastique.
Mais c'est par ces expériences, oui. C'est par les expériences corporelles, les expériences d'amitié, etc., que l'expérience amoureuse, que l'on comprend qu'elle grandit, puisque nous, on est toujours en peau à peau avec ce personnage d'une certaine manière. Donc, les repères, vous ne vous êtes pas embarrassé d'une structure romanesque classique. On avance comme ça au fil des expériences.
Oui, ce sont les expériences et les sensations. Qui dictent le chemin du livre.
Un dernier mot sur ce titre et cette histoire de bête. La bête, elle a aussi ses vertus, c'est qu'elle a ce ressenti très présent que gardent l'enfant et l'adolescent pendant un certain temps. Il y a une sorte de sublimation de cet état-là avec la notion de scintillement que vous faites intervenir à plusieurs reprises. Le scintillement, c'est une sorte de découverte aussi magique du corps.
Oui. C'est drôle parce que quand ce mot m'est venu, j'avais l'impression de le voler au film et au roman The Shining. Et c'est, oui, c'est un terme qui m'est venu. Mais je sais plus.
Qu'est-ce que c'est le scintillement exactement? C'est une sorte de magie qui s'opère à l'intérieur d'Anna dans ce qu'elle perçoit.
C'est une sorte de magie, une sorte de sentiment de pouvoir. C'est aussi c'est quelque chose qu'on attend, qu'on recherche et dont on sait peut-être qu'on ne le retrouvera plus jamais. Il me semble que...
Ça a à voir avec les premières fois, le sentiment?
Oui. Oui, je pense que c'est... c'est un inattendu et une espèce de court moment où on est comblé et alors qu'on ne s'y attendait pas.
Merci Florence Evos d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre roman, Une bête aux aguets, c'est publié aux éditions de l'Olivier et il sera disponible en librairie à partir de jeudi. Table d'été continue en compagnie d'un autre écrivain de la rentrée, Camille de Toledo, auteur de Thésée, sa vie nouvelle, aux éditions Verdier. Camille de Toledo, bonjour.
Bonjour.
Peut-être quelques mots d'abord sur le projet de ce livre, qui est une sorte d'enquête qui vient exhumer l'histoire familiale.
Oui, c'est une enquête généalogique, on pourrait dire, qui part de cet arché, de ce récit de fondation qu'est le mythe de Thésée, donc... C'est une traversée des généalogies, une exploration du temps, et on se pose la question de jusqu'où va l'histoire dans les corps, dans l'histoire des corps, entre autres à travers le XXe siècle. Voilà.
Cette exploration, elle se passe par l'écriture. L'écriture dont on a l'impression qu'elle vient combler les pertes de la conscience, aller chercher le refoulé du passé familial. Il faut peut-être d'abord dire, Camille de Toledo, qu'elle se passe suite à une succession de décès dans la famille et l'écriture vient en quelque sorte rechercher ce qui se cache derrière ces morts.
Alors peut-être oui, pour éclairer ce récit, disons que je crois que nous utilisons tous et toutes des matériaux parfois biographiques. C'est vrai que j'ai perdu sur une séquence très courte de temps frère, mère et père. Et avec cette sensation, cette impression que ces trois morts étaient reliées, notamment d'ailleurs, elles étaient reliées immédiatement parce que le psychanalyste Jung appelait les synchronicités. Il y a des dates qui se répètent, des dates de naissance et de mort. Une mère qui meurt le jour anniversaire de son fils aîné, donc un frère. Et donc, ce que je nomme dans le livre les lapsus du temps. Et c'est une très vieille énigme que Thésée, sa vie nouvelle, essaye d'élucider. Cette élucidation est bien de ce mystère des synchronies, de cette synchronicité, de ces liens entre les vies, entre les générations, pour essayer de voir ce qui... essayer de dénicher des scénarios de répétition, des motifs qui sont parfois associés à des traumas, souvent à des traumas de guerre, et ce que une des branches de la psychanalyse a étudié sous le nom de psychogénéalogie. Donc c'est une sorte de psychogénéalogie en action, où on remonte dans les strates du temps pour essayer de voir ce qui noue des corps entre eux et ce qui traverse ce que je nomme régulièrement cette matière humaine. C'est ça, Thésée, sa vie nouvelle, oui.
Et en même temps, c'est une enquête qui est tout à fait littéraire. Elle s'inscrit dans l'histoire, d'abord l'histoire du mythe. C'est comme si l'histoire familiale, le mythe familial, reprenait le mythe de Thésée et devenait à son tour une nouvelle histoire littéraire, comme une sorte de nouvel ancrage. Et il y a un travail très fort autour du texte dans sa forme, qui mélange une sorte de fil poétique, de flux de conscience, avec un récit plus narratif. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette forme et de cette mise en mythe du récit ?
Bien sûr. Justement, pour m'exprimer sur cet usage du mythe, je crois, comme Jung d'ailleurs, que nous sommes, nous autres, dans nos existences, attachés à des récits de fondation. On retrouve toujours des grands archétypes. Et je ne suis pas à l'aise, en fait, avec l'écriture de soi ou avec, disons, ce qui a pu, au cours des dernières années, se présenter sous le jour d'une sincérité ou d'une authenticité du récit de soi. Je pense que chaque écriture est une forme de voile, et la fiction ici, ou le mythe de Thésée, sert comme une forme de voile fixe, de voile de pudeur, pour travailler un matériau biographique. Je pense que chaque écriture, chaque forme qui se trouve est toujours un voile qui est posé sur la matière, sur ce qui nous arrive, sur un certain nombre d'événements. Et donc, j'ai jamais pu du tout accepter ou plonger dans une écriture qui serait, prise dans cette idée d'une brutalité du récit de soi. Au contraire, j'ai besoin d'en passer par un certain nombre de filtres et de trouver à chaque fois, dans Vie potentielle, un de mes livres, j'allais chercher du côté d'Abraham et de sa question de la transmission. Je pense que nous, collectivement, nous sommes beaucoup dans ce temps Prométhée, enfin, dans ces catastrophes ou dans ce temps des conséquences de Prométhée. Et à chaque fois, je vais chercher en quelque sorte des récits d'archée, ce que j'appelle l'archaïque. Voilà. Et donc, ça travaille ce mythe. Alors, Thésée, c'est des histoires. C'était d'abord un récit que nous faisait ma mère. Il y a une photo dont j'ai le souvenir où nous sommes là avec mon frère à l'écouter. Et pour moi, cette photo, elle dit très justement comment nous entrons dans des histoires. Nous sommes tapissés, tissés d'histoires. Et donc, je vais rentrer en quelque sorte dans ce mythe de Thésée. Thésée, pour celles et ceux qui nous écoutent, ils doivent le savoir, mais il y a d'abord cet acte manqué avec la perte du père, le suicide du père, Égée. Donc il y a des histoires de perte de père, et Égée se suicide. Pourquoi ? Parce qu'il a peur d'avoir perdu son fils, parce qu'il voit ses voiles noires arriver.
C'est une histoire de malentendu, c'est un grand malentendu, l'histoire de Thésée, d'une certaine manière.
Oui, je sais pas si c'est le malentendu, mais plutôt cette forme de tragédie dans les lignages, hein, cet orphelinage, comme je le nomme, en composant avec ce terme d'orphelin et de lignage. Il y a quelque chose comme ça du deuil, de la perte, cette séquence du suicide, de la perte. Alors, dans Thésée, sa vie nouvelle, eh bien, ça commence, c'est un récit qui s'ouvre, c'est un texte qui s'ouvre avec la mort d'un frère, le suicide d'un frère. Et très vite, on voit apparaître justement ce dont je parlais, c'est-à-dire ces synchronies, ces histoires de dates qui frappent la matière humaine. Et donc, c'est l'enquête qui part de ce suicide du frère avec cette question, hein, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, qui pose d'emblée cette question généalogique, cette question du temps, cette question des causalités profondes, qui va être l'objet de cette enquête.
Alors, puisque vous parlez de l'incipit, du tout début du livre, Camille de Toledo, je vous propose de nous en faire la lecture, si vous l'acceptez.
Avec plaisir. Alors voilà comment commence ce livre. « Toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? Tu es né le 26 janvier 1973. Quelques mois après ta naissance, ce fut le premier choc pétrolier qui annonçait la fin d'un monde de l'énergie infinie. Après plus de 30 ans d'une crise du capitalisme, tu as rendu ta vie, et je suis depuis ce jour ton survivant, celui qui porte sur son dos l'énigme de ta mort. Une énigme qui traverse les âges et les frontières, une perte et un manque auxquels se nouent d'autres histoires venues du passé qui laissent apparaître un fil fragile. Et lorsque je le tire, ce fil, voilà ce qu'il révèle, que nous sommes un continuum de désastres et d'effondrements, et cette enveloppe que nous appelons corps, que nous revêtons, soignons et vénérons, n'est rien qu'une cristallisation de liens qui peuvent dans l'exil, la vieillesse ou l'accident se dissoudre. Un frère, une mère, un père, une langue, l'empreinte d'une ville où nous avons appris à aimer, le souvenir des forêts autour d'un village enfant. Quand nous perdons nos liens, mon frère, nous tombons. Et moi, après ta mort, je suis tombé. J'ai été battu et traversé par d'étranges forces venues du passé. Il n'y avait plus de jour pour moi, plus de lumière. J'ai dû retrouver vos visages, revisiter l'histoire dont nous sommes nés. J'ai été, en suivant ces forces, contraint de replonger dans ce temps absurde et amnésique des 30 glorieuses. Puis j'ai dû retraverser la guerre jusqu'aux tranchées de l'autre siècle, plonger dans les eaux du temps, éclairer les mensonges dont nous sommes les enfants. Tu vois, mon frère, pour ne pas mourir, j'ai dû entreprendre un voyage, au cœur de la nuit, dans les plis du corps, dans les strates du temps, afin de comprendre ce qui t'a pris et répondre à cette mauvaise question qui finit par renverser tout ce à quoi je croyais. Moi, le moderne, l'enfant de la prospérité, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ?
Merci beaucoup de nous avoir fait cette lecture. Quand on a l'oreille, ce qui saisit, c'est d'abord cette répétition de cette question qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, qui entame et clôture ce passage que vous nous avez lu. Et ce procédé, même très visuel, sur la page, d'un long poème, comme un long poème narratif.
Oui, on m'en a fait la remarque. Je compose les livres. En fait, je n'arrive pas à trouver la fin d'un livre avant qu'il soit vraiment composé sur la page. Et donc, j'ai cette matière comme ça de texte que je travaille même parfois avec celles et ceux qui s'occupent des maquettes dans les maisons d'édition. Je l'ai fait chez Gallimard avec le livre de la faim et de la soif. Vie potentielle était également composée. En fait, j'ai besoin que un peu comme en poésie, on travaille la page. J'ai besoin de travailler le blanc de la page. Je le fais aussi avec la bande dessinée parce que ce sont des pages, des planches qui sont également extrêmement composées. Donc oui, dans le texte, on suit, mais je crois pas que ce soit de l'ordre du poème. C'est plutôt comme si c'était à chercher la juste place, en fait, le juste lieu avec ces voix qui sont tissées parce que sa vie nouvelle est composée d'une multiplicité de voix qui s'enchevêtrent, qui s'enchassent. Il y a la voix des ancêtres, la voix d'un ancêtre qui laisse un texte derrière lui, qui en quelque sorte circulait sous le manteau dans ma famille. Il y a donc cette voix de l'ancêtre, cette voix de l'enfant mort, Oved, avant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a toutes ces voix, la voix du frère qui y arrive. Et donc, pour les rendre, en fait, pour le lecteur presque lisible et matériellement appréhendable, il faut qu'elle soit posée d'une certaine manière dans la page. Voilà. Donc c'est ce qui explique aussi, je crois, cette sensation d'un texte très, très composé sur le papier.
Alors dans la forme aussi littéraire, ces questions, les questions fondamentales de l'enquête littéraire sont reposées inlassablement comme une sorte de mantra. Il y a une dimension presque mystique dans ce procédé de la répétition et de cette voix qui revient, une petite voix en italique, celle qui pose les questions.
Bon, d'abord, ce que je dois partager avec vous, parce que pour ceux qui liront Thésée, il faut l'entendre, c'est que, au fait, c'est aussi une histoire initiatique, parce que au cours des 4 dernières années, j'avais perdu 80% de mes capacités de mouvement. J'ai donc écrit ce livre de façon somnambulique, allongé. Je peux plus d'ailleurs tellement me déplacer avec aisance, parce que il y a ce corps comme ça qui a été travaillé nerveusement par différents traumas. Et donc j'ai nourri la voix de Thésée dans ce livre de cette traversée de ces limbes dans lesquels j'ai été conduit.
C'est comme si vous écriviez donc, parce que vous n'aviez pas le choix d'une certaine manière, Camille de Toledo. Il fallait écrire sur cette histoire parce qu'elle vous atteignait physiquement.
Disons qu'en tout cas dans le récit, dans la narration, ça prend cette forme-là parce que Thésée est effectivement comme un double, hein, comme Abraham dans Vie potentielle, le narrateur était aussi un double. À chaque fois, on prend des doubles qui sont des voiles de vie. Lui commence Thésée par vouloir tout oublier, tout quitter en moderne, à couper, hein, cette logique de la coupure, de l'oubli, de l'amnésie, d'aller de l'avant, de reprendre sa vie. Il part vers l'Est, hein, l'histoire se circule entre la ville de l'Ouest et la ville de l'Est, entre ce que l'on comprend être Paris et Berlin.
Il part avec trois cartons, hein, un carton par mort qui l'emmène avec lui, avec l'idée que l'histoire l'accompagne, mais pour l'instant, il ne veut pas complètement la fouiller, cette histoire-là. Juste, il la traîne avec lui.
Oui, c'est ça. Et à travers cette enquête, d'ailleurs, il y a quelque chose qui se joue du rapport à l'archive, parce que le livre est aussi ponctué et scandé par à la fois des documents, des manuscrits, des images qui sont comme des témoins du temps. Et effectivement, quand on me posait la question de ce rapport à l'archive, pour moi, c'était ça. C'était témoigner pour le temps, mais aussi, c'était une menace. Thésée, dans le livre, n'arrive pas à ouvrir ses cartons. Et de même, dans la vie, il y avait quelque chose qui se refusait. Je n'arrivais pas à ouvrir cette boîte noire du temps, de l'enfance. Je pouvais plus regarder toutes ces images. Et donc, il a fallu les ressortir. Et c'est par le corps, c'est par la blessure, c'est par l'effondrement que j'ai traversé et que je prête à Thésée, que je suis obligé, que le narrateur est obligé dans le livre de se reconfronter à cette archive, à cette mémoire, à ce temps. Mais au-delà de ça, il y a une énigme en fait qui angoisse, hein, qui peut-être pas qui angoisse, mais qui fait peur. La notion de coïncidence signifiante est quelque chose qui est un des vieux mystères de l'humanité. C'est qu'est-ce qui nous traverse? C'est très très profond cette histoire et c'est au-delà de la littérature. C'est pourquoi la mort d'un grand-père ou le suicide d'un grand-père se répète dans le suicide d'un arrière-petit-enfant. Pourquoi la mort d'une mère imprime dans la matière humaine un trauma qui va se retrouver des générations plus tard. Ça, c'est une véritable énigme auquel se sont heurtés beaucoup, beaucoup de savants. Et c'est, je crois, ce qui explique ce mode, j'appelle ça aussi un livre des questions, c'est que je n'avance avec aucune certitude. Mais par contre, je vois ça, je suis obligé de constater ça. Il y a ça dans le lignage, il y a quelque chose qui nous traverse, et le livre Thésée essaye d'élucider cette chose-là, mais toujours en avançant avec des questions et des hypothèses.
Alors les questions de Thésée, les questions de Thésée, ce sont aussi des questions individuelles, mais ce sont aussi des grandes questions collectives. Il y a les questions des liens entre les ancêtres et avec eux, y compris les liens qui ont pu être tus ou coupés. Mais il y a aussi la question des activités collectives. On voit bien dans la lecture que vous venez de faire que avec la naissance du frère, il y a eu la crise du capitalisme, il y a eu tout ce qui s'est passé dans l'histoire occidentale, et bien au-delà, il va y avoir l'histoire des ancêtres juifs, puis les liens sacrés coupés avec la religion. Donc c'est aussi l'histoire collective qui est travaillée par l'écriture. Est-ce que la forme du récit, la forme pas tout à fait romanesque, mais celle du récit à plusieurs voix, polyphonique, elle ne permet pas aussi de retisser des liens en racontant les trous de l'histoire ?
Oui, certainement. Enfin, je crois que c'est, en tout cas, j'en reviens en fait à ce que je disais en début d'émission sur cette histoire de qu'est-ce qui nous traverse, qu'est-ce qui traverse, qu'est-ce qui s'imprime dans la matière humaine. Il y a ça dans Thésée, sa vie nouvelle, cette question. Et Anne Ancelin Schützenberger, qui avait utilisé ce terme de psychogénéalogie, montre ça en fait que nos existences et les existences de nos ancêtres en fait sont traversées par des événements collectifs, par du politique, par de l'histoire, par du trauma, par des violences, par des guerres. Et c'est, je crois, ce qui scande aussi ce récit de Thésée, sa vie nouvelle. Je disais parfois c'est un génosociogramme en action. Le génosociogramme, c'est quoi? C'est un arbre généalogique augmenté de toutes les informations politiques, historiques, qui ont, en quelque sorte, encrypté soit des secrets, soit des traumas dans la matière. Donc dans Thésée, sa vie nouvelle, oui, il y a ce secret du judaïsme, ce que j'appelle ce judaïsme errant, mais qui se rapporte en fait à une longue histoire marane que l'on entend dans De Toledo et dans Le nom de ma grand-mère. C'est cette longue histoire marane en fait d'un attachement à Dieu empêché. Donc ça, c'est un des secrets. Il y a le secret des suicides qui sont là aussi encryptés, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas et on ne parle pas de la fragilité des hommes parce que ce sont des temps de guerre, parce que d'une certaine façon, les hommes ne parlent pas de leur fragilité, ou si peu, ou ils commencent juste avec notre génération à en parler. Donc il y a ces secrets comme ça et qui ont des répercussions. On parle parfois de suintement du secret à travers le temps. On dit parfois il faut 3-4 générations pour arriver à parler de certains secrets.
Alors je vous propose d'écouter, puisque vous parlez de génosociogramme, je vous propose d'écouter Daniel Fomenbaum qui en parlait le 20 août 2005 sur France Culture.
Le génosociogramme représente ce rituel qui est la récupération de la considération que l'on a à nos ancêtres, et le fait de faire leur connaissance va opérer un continuum. On va savoir d'où on vient et ça va faire un mouvement qui va nous permettre d'aller où on va. Donc le génosociogramme est pour moi un outil absolument nécessaire, pas seulement dans la pathologie, je dirais. Hein. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a de la réticence à faire ce travail. On est fidèle à ce qu'on nous a donné en l'état, et c'est comme si on n'osait pas faire intrusion dans ce que l'on nous avait pas dit. Et la réticence, je pense que c'est effectivement notre fidélité au passé, comme si il s'agissait d'une transgression. Et si l'on comprend que le génosociogramme n'est pas une transgression, mais au contraire la capacité de remercier ses ancêtres pour pouvoir créer sa propre histoire et donc pouvoir les prolonger, il ne s'agit plus d'une transgression, mais d'un rituel qui n'est pas un rituel de séparation, mais un rituel de prolongation.
Camille de Toledo, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit sur le génosociogramme? Est-ce que vous vous sentez proche de ce qui a été expliqué par Daniel Famenbaum?
Oui, absolument. Comment ne pas s'en sentir proche? J'ai surtout beaucoup aussi aimé ce ton de voix, cette manière de dire et d'exposer les choses. J'essayais aussi de traduire pour celles et ceux qui nous écoutent. Le génosociogramme et en fait ce qui se déroule dans Thésée, sa vie nouvelle, c'est vraiment un travail, disons, qui remet en cause, au fond, c'est ce que Anne-Ancelin Schulzenberger appelait la part intergénérationnelle. Les années 60-70, les boomers, les parents de Thésée dans le livre, sont des gens qui vivent selon cette foi moderne que l'on peut couper, que l'on peut inventer sa vie, que l'on peut en quelque sorte s'affranchir sans en passer par le legs, sans en passer par la question de l'héritage ou la question des ancêtres. Et je crois que nous autres, au début du XXIe siècle, nous sommes dans ce fameux temps des conséquences et nous avons à observer en quelque sorte ce qui a eu lieu et notamment les différents traumas qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Et nous sommes en quelque sorte les héritiers de cette histoire du trauma, et si nous ne voulons pas les passer, ces traumas, aux générations qui nous suivent, c'est-à-dire à nos propres enfants, nous devons servir comme quelque sorte de filtre. Et Thésée, sa vie nouvelle, le corps même de Thésée dans le livre est ce corps filtre. C'est une écriture du filtre, c'est quelque chose qui cherche à élucider des récits. Et l'autre chose qui m'a frappé dans cette intervention, et qui pour moi est fondamentale, c'est que c'est ce qu'on appelle les loyautés inconscientes. Nous sommes, comme je le disais, tissés d'histoires. Nous avons une loyauté aux histoires qui nous ont été racontées. Et la remise en cause de ces histoires, et dans Thésée, sa vie nouvelle, passe par la remise en cause profonde de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, ce récit de l'abondance, du progrès, de la reconstruction également, qui va avec un oubli du passé, avec une marche en avant, etc., est totalement remis en cause. C'est comme si j'avais à légender la légende. Contre-écris.
D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des matériaux d'écriture. Il y a ces lettres, le journal de Talmaï, le père d'Ovet, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, qui rend hommage à ce fils mort. Et il y a les lettres intimes échangées entre les frères avec Nissim pendant la Première Guerre mondiale. Cette histoire des traumatismes, elle est totalement ancrée à l'intérieur des crises du XXe siècle. Et elles ressurgissent à travers les lettres et les photos.
C'est ça, et absolument. Et dans ces explorations, j'ai consulté, évidemment, j'ai pratiqué moi-même l'hypnose, beaucoup la méditation, etc. Et j'ai récolté des récits qui me fascinent encore aujourd'hui. Mais comme ces récits, par exemple, d'une main d'un enfant, d'un petit enfant qui se paralyse au même âge que cette main qui n'a pas réussi à retenir quelqu'un pendant la guerre, au moment d'une déportation, où il y a comme ça ces inscriptions et encryptages dans la matière que va chercher le livre. Et donc, dans mes lignées, effectivement, j'ai été amené à mobiliser beaucoup de matériaux. Mais je dois dire que je n'ai pas mobilisé que des matériaux intimes. J'ai mobilisé un grand nombre de matériaux que j'ai parfois déplacés. J'ai accompli un certain nombre d'opérations de traduction aussi généalogique, d'emmêlement généalogique pour écrire Thésée.
Alors, dans sa forme, justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce procédé-là? Le narrateur est comme dédoublé. Parfois, le narrateur est en jeu, est à la première personne, et parfois, le narrateur est le frère qui reste, comme une sorte de troisième personne extérieure, comme ça. Comme si la quête était en elle-même dédoublée, Camille de Toledo.
Oui, c'est la solution qui a été trouvée au fil de l'écriture, parce que une écriture simple au jeu, c'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les matériaux que je travaille, on entendait tout à l'heure la crainte, c'était tellement dur, c'était tellement sur cet infraverbal, quelque chose que je n'arrivais pas à dire, que le déplacement au Hill, enfin à Thésée, avec le frère qui reste, me permettait en fait de sortir de ce qui aurait été trop pathologique, de ce qui aurait été trop névrotique. Mais par contre, le jeu revient comme le carnet, comme la matrice de quelque chose où on se heurte à ces épreuves traversées. Donc ça rend le récit possible, cette oscillation. Mais ça a déjà été utilisé par, je pense à W, Souvenir d'une enfance, de Pérec. En fait, il y a cette sorte de schizophrénie je-il, dès lors qu'il y a quelque chose d'indicible. On peut en passer par le jeu pour arriver à dire le plus brûlant d'une expérience, d'un trouble, et le « il » refait récit, permet de prendre une distance. Et c'est ce que disent exactement les études en traumatologie. Les traumatologues disent « le récit de le trauma, on n'arrive pas à en faire un récit, c'est une image obsessionnelle qui revient et dont on n'arrive pas à sortir. D'ailleurs, on dit « je ne m'en sors pas ». Là où, en fait, l'écriture permet de rétablir un récit. Et là, c'est lorsque l'on sort du trauma. Eh bien, Thésée, sa vie nouvelle s'écrit sur cette ligne de brèche entre ce qui n'arrive pas à se dire et ce qui trouve une manière d'être dit. Voilà. Par le il, donc par ce rapport au personnage.
Une dernière question, peut-être la question de la mémoire du corps qui est travaillée. C'est le corps-mémoire qui fait remonter l'histoire, mais c'est aussi la mémoire, elle revient sous forme de répétition. Vous parliez de répétition traumatique. L'écriture va permettre d'une certaine manière d'en faire une musique de ce traumatisme-là. La question n'est peut-être pas toujours de la transformer, mais juste de sublimer, y compris par le son des syllabes.
Camille de Toledo. Je vous disais aussi à un moment que je cherche le poème et parce que je pense que j'ai des difficultés avec le roman que je ne cesse d'essayer de comprendre depuis que j'écris, ça fait quand même quelques années maintenant, et j'ai des difficultés avec le faire roman, avec la causalité artificielle du roman, et je m'interrogeais sur cette résistance du poème, ce surgissement du poème dans le récit, dans le roman. Et dans ce qui en tout cas fait narration, et j'exprimais les choses ainsi en disant finalement le roman clôture autour d'une causalité souvent artificielle, il cherche le dénouement, et le poème ouvre. Et je n'ai cessé dans ma vie de vouloir ouvrir, c'est-à-dire faire face par exemple à tous les récits de fin, de finitude, fin de l'histoire, fin de l'art, fin d'etc. Et je n'ai cessé d'ouvrir. Et c'est vrai que le poème ouvre, et souvent pose plus de questions qu'il n'a de réponses. Donc je pense que cette matrice comme ça du poème, de ces voix qui se tissent en une sorte de cœur, je pense à avoir avec ça chez moi, cette manière de vouloir ouvrir, sans cesse ouvrir.
Merci Camille de Toledo. Votre récit s'intitule Thésée, sa vie nouvelle. Il est publié aux éditions Verdier, il sera disponible en librairie à partir de mercredi. Tout de suite, la fiction imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD en partenariat avec le Théâtre de la Ville, en soutien à la création et aux auteurs. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui d'Isabelle Roucard, réalisé par Laurence Courtois. Le monde d'aujourd'hui d'Isabelle Roucard.
J'aurais préféré pas avoir à faire ça. Pas aujourd'hui.
À faire quoi ?
Une fiction écrite par Gaëtan Gauvin et Nathan Chouchana.
Faites pas l'innocente, Madame Roucard. Vous avez été filmé.
Je vois pas de quoi vous voulez parler.
Quand vous avez laissé votre caisse.
Oui, ?
Vous avez fait quoi quand vous avez laissé votre caisse?
Je suis rentré au vestiaire.
Vous êtes rentré au vestiaire. Et vous êtes passé par où?
Par le magasin.
Évidemment, par le magasin. Mais quel rayon?
Par le rayon librairie.
Oui. D'habitude, vous passez par l'animalerie.
Comment vous le savez?
Vous savez très bien comment je le sais. Dites-le-moi maintenant, sinon ça va être pire. M'obligez pas à vous fouiller, s'il vous plaît.
J'ai pris un livre.
Ok. Vous reconnaissez que vous avez pris un livre?
Oui.
Pourquoi vous avez fait ça? Vous savez très bien qu'on ne laissera pas passer. Ça vaut quoi un livre comme ça? 5-7 balles? Ça serait des tomates ou je sais pas moi, ça serait de la nourriture. Mais là c'est inacceptable. C'est encore plus inacceptable.
Mais c'était pas un livre à vendre.
Pardon?
C'est un vieux livre, regardez. Les pages sont jaunies. C'est pas un livre du magasin.
Ça fait pas partie du catalogue?
Non. C'est moi qui l'ai laissé là en prenant mon poste.
Mais pourquoi vous avez fait ça?
Je sais pas. Je l'ai oublié.
Vous lisez ça, vous?
Oui.
Ok. C'est bien. Je veux dire, c'est bien comme passe-temps, comme activité. Enfin, c'est bien de lire.
Oui.
Vous lisez pas sur votre temps de travail, hein?
Ah non, non, non.
Ok. Eh ben, c'est très bien. Je veux dire, c'est parfait. Vous pouvez y aller, quoi.
D'accord.
Madame Roucard?
Oui.
Faites attention à vos affaires quand même. Un client aurait pu partir avec.
Ah oui, vous avez raison.
5 mars 2020. Aujourd'hui, j'ai menti. J'ai trouvé un livre par terre et j'ai fait croire que c'était à moi. Si un client laisse ses affaires à la caisse ou si on trouve un objet dans le magasin, on doit le rapporter à l'accueil. Depuis 25 ans que je travaille, j'ai toujours rapporté. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait. À l'instant où je l'ai vu, je voulais le saisir. J'ai vu le titre, Le Monde d'hier. J'ai vu le nom de l'auteur, Stefan Zweig. Et ça a été plus fort que moi, c'était pas réfléchi, je le jure. Le pire, c'est que j'ai essayé de m'y mettre, mais certaines phrases sont tellement longues qu'une fois arrivée à la fin, je me souviens plus du début. Stefan, j'ai décidé de l'appeler Stefan parce que je sais pas si je prononce correctement ce drôle de nom de famille. Bref, Stefan a voulu témoigner de son époque. C'est une autobiographie. C'est vrai que j'ai jamais été très douée à l'écrit. J'ai pas dû dépasser 13 en rédaction en quatrième. Donc j'ai décidé de m'enregistrer. Je vais enregistrer mon autobiographie, voilà. Ça s'appellera « Le monde d'aujourd'hui » d'Isabelle Roucard.
Salut Isa.
Ah, salut.
Tout va bien?
Oui, merci.
Et hier?
Comment ça?
J'ai bien vu que la sécurité voulait te parler.
Ah oui, oui, non, c'était une erreur.
Une erreur?
Oui, ils ont cru que j'avais pris quelque chose alors que j'avais rien pris.
Ah oui, ils font des erreurs maintenant, hein?
Ça arrive.
Et t'avais rien pris?
Non.
Tu peux m'en parler, tu sais, si t'es dans le train.
Tout va bien.
Ok.
J'avais laissé traîner quelque chose.
Tu me rassures.
Bonne journée.
Et toi aussi.
Mars 2020. Tiffany est venue me demander comment j'allais. C'est très gentil de sa part. C'est la première fois que ça se produit depuis 5 ans qu'on travaille ensemble. Mais je lui en veux pas. C'est pas grave. Tout le monde sait que Tiffany roule pour la sécurité. À midi, j'ai avancé dans ma lecture. Stéphane était juif. Apparemment, il a vécu des choses très graves pendant la guerre. Il parle d'un système qui consiste à assommer les gens à coups de matraque et à les exterminer. Bref. Je pense que si Tiffany avait vécu pendant la guerre, elle n'aurait pas hésité à dénoncer Stéphane à la sécurité.
Ah, Madame Roucard.
Bonjour.
Vous allez déjeuner?
Oui.
Je vous verrai après alors.
Vous voulez me parler?
Non, mais je vous en prie, c'est pas urgent.
Non, mais ça m'embête pas.
Bah, eh bien, c'est cette histoire de bouquin. Moi, je voulais en rester là, mais vous connaissez la direction. Ils veulent toujours aller plus loin. J'ai eu beau leur dire que le bouquin était pas neuf, ils insistent.
Ah bon? Pourquoi?
C'est qu'on a vérifié sur la vidéo, et vous n'êtes pas passé par le rayon librairie pour vous rendre à votre caisse. Du coup, ils se demandent si vous n'avez pas oublié de rapporter un objet trouvé. Je pense que vous vous en sortiriez avec un simple avertissement.
C'était à midi. J'y suis passée après la pause déjeuner.
À midi?
Oui. Vous avez vérifié?
Non. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit la dernière fois?
Je n'ai jamais attribué tant d'importance à ma personne que j'eusse éprouvé la tentation de raconter à d'autres les petites histoires de ma vie.
Mars 2020. Ce que je crains le plus, c'est lorsqu'ils essayent de paraître conciliants. L'année dernière, ils avaient promis à Monique que tout irait bien, à condition qu'elle avoue pour le rosbif. Elle avait avoué. Ils l'ont licenciée, pour faute grave. C'était le dernier poste à supprimer depuis qu'ils avaient installé les caisses automatiques. Je crois que je suis prise au piège comme un rat. Ce soir, ils vont vérifier les vidéos et ils vont voir que je suis jamais passée par la librairie après la pause. Ce que j'aimerais, c'est juste avoir la force de me défendre. Mais j'ai les chocottes. À chaque fois que je me retrouve devant eux, c'est comme si les mots me manquaient. À propos de la guerre, Stéphane écrit « Mon mouvement naturel, dans toutes les situations périlleuses, a toujours été de les esquiver. C'est que les grands hommes aussi éprouvent la peur. »
Bonjour à tous. Avant de commencer la journée, j'aimerais vous parler.
Moi aussi, monsieur le directeur.
Oui, je me doute que vous aurez des questions.
Non, des affirmations.
D'accord. Vous pourrez les exprimer en temps voulu.
J'y compte bien.
Très bien. Ne nous cachons pas plus longtemps, ce qui arrive est d'une gravité exceptionnelle.
Oh, vous y allez fort.
Vous avez un autre exemple de pandémie?
De pandémie?
Vous avez entendu parler du Covid, Isabelle?
Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler.
Bien. Avant toute chose, je tiens à vous assurer de notre détermination à vous protéger. Votre santé et celle de vos proches restent et resteront notre priorité première. Pour cela, le siège prendra des mesures, tout ce qu'il y a de plus efficace.
Merci, monsieur le directeur.
C'est normal, Tiffany. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la population compte sur nous. Les gens, les familles, les enfants, les mamans, ils vont avoir besoin de nous. Ils vont être dans le besoin de couches, de lait, de chips, de légumes, de tous les produits de première nécessité. Et ils comptent sur nous. Et c'est un défi qui s'ouvre devant nous. C'est pourquoi je compte sur vous pour assurer vos postes dès aujourd'hui avec la plus grande détermination. Et on a besoin de tout le monde. Des petites mains qui sont déconsidérées. Parce que c'est dans ces petites mains-là, dans ces métiers de première nécessité, qu'on voit les héros. Je vous remercie. Isabelle, vous vouliez dire quelque chose?
Non, merci, monsieur le directeur, c'était très clair.
12 mars 2020. Quiconque exprimait un doute les gênait dans leur commerce patriotique. Quiconque prodiguait ses mises en garde, il le traitait de pessimiste et se moquait de lui. Quiconque combattait la guerre, dont eux-mêmes n'avaient pas à souffrir, il le stigmatisait comme un traître. C'était toujours la même clique, éternelle à travers les âges, de ceux qui appellent lâches les prudents et faibles les plus humains, pour demeurer eux-mêmes désemparés au moment de la catastrophe qu'ils ont provoquée par leur légèreté. C'est beau.
Je vous remercie.
Ça a de la force, ce que vous écrivez.
Ça a un certain souffle, indéniablement. Même si des fois, c'est un peu trop sophistiqué à mon goût.
Je sais pas pourquoi, depuis 15 jours, je suis obsédée par votre livre. Je suis obsédée par vous.
Merci de votre franchise. Je vous comprends, vous savez. Je suis l'écrivain de la passion humaine, après tout.
Le monde vit sa plus grande crise depuis la guerre. Depuis votre guerre à vous. Et moi, je fantasme sur les écrits d'un vieux monsieur.
Voyez-vous, je pense comme Freud qu'en matière de psychisme, il n'y a pas de hasard.
Et donc?
Je veux dire par là que c'est précisément au moment où le monde vacille que vous éprouvez le besoin de faire l'expérience de l'héroïsme. Pas celui guerrier et péremptoire de la machine à broyer les âmes. De l'héroïsme moral et spirituel.
Ça me parle beaucoup ce que vous dites.
Je sais. Sinon, vous n'imagineriez pas ce dialogue entre nous alors que vous êtes assise à votre caisse.
Ah oui, c'est un peu timbré, vous trouvez pas?
Au contraire. À travers vous, je sens renaître la passion du poète que je fus naguère. Elle embrasse votre époque telle une nouvelle aurore.
Mais moi, je suis pas poète.
Toujours on assistera au retour fortuné des poètes.
Je dois vous faire une confession. À cause de vous, j'ai volé.
Pas à moi, ma petite.
Ah, c'est vrai que ça m'a fait plaisir.
Vous avez saisi la lueur dans l'incendie qui allait embraser le monde.
Oui, mais je sais plus quoi faire, moi. Plus je vous connais, et moins je me sens à ma place.
Est-ce dans la connaissance ou dans la place que réside le problème?
C'est une manie chez vous de répondre à une question par une autre. Qu'est-ce que je dois faire concrètement?
Pour commencer, vous allez rendre la monnaie à cette dame.
Ah oui, voilà, c'est vrai.
Et puis vous allez cesser ce mouvement répétitif de va et vient au-dessus de votre caisse. C'est très mauvais pour le coude. Ensuite, vous allez vous lever. Vous allez rentrer chez vous.
Faut que j'envoie tout balader, c'est ça? C'est facile de faire la morale. Plus de savoir, plus de passion, plus d'humanité. J'ai des factures à payer, moi. Vous, quand c'est devenu vraiment craignos, vous vous êtes suicidé. Alors, motus. La fuite, c'est ça, votre monde de demain? C'est la mort?
Mais pas du tout. L'occasion est inespérée d'engager le monde dans une mutation philosophique bouleversant les domaines de l'industrie, de l'économie, de l'éducation, et j'en passe. Une réinvention inspirée et non isolée de nos tentatives d'hier, qui réconcilierait les enjeux de l'émancipation des êtres et du respect de la nature.
Je pourrais vendre des glaces?
Oui, des sorbets bio issus du commerce équitable sur la plage de Saint-Cyprien.
Ou alors, créer mon propre supermarché.
Vous y êtes. Réinventer le commerce en privilégiant les circuits courts et les petits fournisseurs.
Mais surtout, ce à quoi je devrais m'attacher, c'est à l'impression que j'ai le matin lorsque j'enfile mes chaussons.
Je ne vous suis plus, Isabelle.
D'habitude, je fais ça tout à fait machinalement. Mais ce matin, avant de venir ici pour la dernière fois, j'ai glissé mes pieds l'un après l'autre et j'ai réalisé la souplesse du cuir, la chaleur de la doublure. Cette sensation douce et réconfortante. À l'aube de ma nouvelle vie, je voudrais la revivre encore et encore. Je voudrais qu'elle s'ancre en moi comme une impression banale de la vie quotidienne. Et si j'ai de la chance, si l'occasion se présente de témoigner à mon tour de mon époque, alors je raconterai mes pantoufles et les matins heureux.
Monsieur le directeur?
Oui.
Avec tout ça, je n'avais pas eu le temps de vérifier, mais Isabelle a menti. Elle a bien piqué le bouquin. On la tient.
Vous n'êtes pas au courant? Elle a démissionné ce matin.
Le monde d'aujourd'hui d'Isabelle Roucard, de Gaëtan Gauvin et Nathan Chouchana. Réalisation Laurence Courtois. Retrouvez le générique complet sur franceculture.fr. Vous retrouverez un prochain épisode de la fiction Imagine demain. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, Elbeuf, la ville natale d'André Mauroy.
Au cours de notre périple, au cours de notre descente de la Seine, nous avons traversé plusieurs paysages de Seine. Nous avons traversé la Bourgogne des grandes légendes, celle des abbayes, une terre au fond mystérieuse et prenante. Nous avons traversé Paris. Il y a une vallée de la Seine que nous n'avons pas vue jusqu'ici et que nous voyons ici maintenant devant nous à Elbeuf, et qui est la Seine industrielle, qui est une Seine des grandes manufactures, une Seine de l'effort des hommes, de l'exploitation aussi. Et c'est cette Seine que l'on voit à Elbeuf, dans laquelle je voudrais vous parler maintenant de la naissance d'un écrivain. C'est un jeune officier de liaison à l'armée britannique stationné dans les Flandres en 1915. Il dit dans une de ses lettres qu'il serait heureux au front si sa jeune femme ne l'inquiétait pas. Il lui écrit « Je t'aime, hélas. Je serais si tranquille ici, si je n'aimais personne. » Dans un livre écrit plus tard et qui lui vaudra sa célébrité, on peut lire ces vers de Mirliton qui serrent le cœur. « Ne me plains pas, je dormirai sans barcarolle et de mon cœur je nourrirai les herbes folles. Mais si par quelques soirs d'automne et de brouillard, pour ton visage de madone, tu veux le phare de cet air de mélancolie que j'aimais tant. Alors oublie que tu m'oublies. Pour un instant. » Bien des années plus tard, le jeune homme malheureux, devenu vieux, sera élu à l'Académie française. « Tout concourt à la grandeur d'une des plus belles cérémonies de ce pays », écrira-t-il, « l'ancienneté de l'édifice, l'étrangeté de sa forme, l'exiguïté de la salle, la qualité du public, l'appareil militaire, le vocabulaire traditionnel et parfois, j'aime le parfois, la qualité de l'éloquence. » On dit qu'avant de mourir, on voit défiler sa vie en un instant. J'ignore s'il en va de même au moment d'être reçu à l'Académie française. Si le jeune homme dont je parle, qui s'appelait Émile Herzog, a vu défiler la sienne, il a sûrement revu des images de l'endroit où nous sommes à présent, Vincent Deck et moi. Car Émile Herzog est né ici, à Elbeuf, au bord de la Seine le 26 juillet 1885. Il était l'héritier d'une famille d'industriels du drap venus d'Alsace s'installer dans cette ville vouée en effet au drap depuis l'Ancien Régime. Et nous sommes au 25 de la rue Camille Randouin où s'élevaient leur usine, les établissements Frankel-Herzog, qui au fait de leur réussite employaient 1500 ouvriers sur près de 20 000 mètres carrés. Nombre de bâtiments ont disparu, mais il reste des ateliers qu'on voit devant nous en briques bicolores avec des pilastres plats surmontés d'initiales. Tout ce centre où nous sommes à présent est un monument d'architecture industrielle avec les grandes manufactures Godet, Grandin ou Clarençon. On y respire un air anglais, un air victorien, celui du monde du fer, du drap, de l'argent et de la morale, où les plaisanteries n'étaient pas de mise. Pour la famille Herzog, qui avait été chassée d'Alsace par l'annexion et qui était au surplus, comme on disait à l'époque, israélite, dans le temps de l'affaire Dreyfus, il n'y avait à aucun degré de quoi rire dans le monde tel qu'il était. Le jeune Herzog est donc né dans le pays mental de la reine Victoria. Il n'est pas étonnant qu'il ait aimé les Anglais, leur consacrant son premier livre et traduisant le célèbre poème « If » de Kipling. Il les décevra ensuite lorsque, en 1940, il préférera partir en Amérique plutôt que de subir avec eux l'épreuve du Blitz. Et Churchill, qui l'avait aimé, dira cruellement « Nous croyions avoir un ami, mais nous n'avions qu'un client ». Vers 1910, le jeune Émile Herzog, c'est un peu le jeune homme riche de Larbeau, à cette différence près qu'héritier des sources de Vichy-Saint-Yor, Larbeau ne s'y intéressera jamais, alors qu'Émile Herzog, lui, connaîtra jusqu'au début de ses succès dans les lettres, les joies de l'usine et des conseils d'administration. Il se sentira éminemment responsable. Et ce qu'il écrira par la suite sur le commandement des hommes ressemblera un peu à cet ouvrage éminemment grotesque qui s'appelle « Les propos de Barenton Confiseur » d'Auguste De Teuf et que des générations de jeunes polytechniciens ont passionnément aimé. C'était, il est vrai, l'époque où l'on faisait argent avec de vraies choses, où l'on s'enrichissait non en délocalisant mais à la vue de ceux qu'on exploitait, ce qui était de nature à stimuler les consciences sensibles. Aujourd'hui, on ne voit souvent personne et les raisons sociales des grandes entreprises ont versé dans l'abstraction portant ces noms bizarres de capote anglaise ou d'adolescente américaine, Engie, Aventis, Nexity, plutôt que ces bons vieux noms du capitalisme d'autrefois qui pouvaient faire rêver, les établissements Frankel-Herzog, les caoutchoucs de Padang, la compagnie de Suez. Il y aurait un essai vraiment à écrire sur la manière dont le capitalisme, comme la guerre, se cache au moment où il triomphe, mais peut-être Baudrillard a-t-il écrit cet essai, après tout. Quoi qu'il en soit, c'est la nostalgie qui nous étreint à Elbeuf et la destinée du jeune Herzog n'a rien qui puisse la dissiper. À 20 ans, il est élégant, fin et riche, une sorte de Nissim de Camondo, sérieux et sensible, il se cherche. Il ne sait pas qu'il est voué à devenir le Zweig français, en moins douloureux, en moins prophétique. Il n'a renoncé à rien. Le ciel s'assombrit derrière les façades lourdes des villégiatures normandes où sa famille se repose de son industrie, mais rien ne vient affecter les splendeurs irisées du monde bourgeois qui s'achève. Et puis Émile Herzog fait son service militaire. Au 74e d'infanterie à Rouen, et lorsqu'il en sort, c'était écrit, il s'occupe avec ses cousins de l'affaire familiale, il maîtrise la fabrication du drap, il affronte des crises sociales, il négocie en Angleterre, il en tirera la matière plus tard de ses livres anglais qui restent incomparables. Mais en 1909, il rencontre Jeanne Vanda de Siemkiewicz, on l'appelle Janine, et il l'épouse en 1912. C'est la fille d'un aristocrate polonais, et leur amour sera tragique. On peut en lire le récit dans un livre brûlant et précis, à tous égards remarquable, de Dominique Bonnat qui s'appelle « Il n'y a qu'un amour ». C'est un drame des bords de Seine, entre Elbeuf et Deauville, et la naissance d'un écrivain. Pas un immense écrivain peut-être, mais l'un de ceux dont les livres ont jalonné notre éveil à la conscience. Janine est incroyablement belle, grande, diaphane, étrangère et mystérieuse. Il se souvient de l'âme russe, cadeau d'un de ses professeurs de sixième, et il aurait peut-être pu dire comme Aragon « Elle avait la démarche légère et de longues jambes de fan, j'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant ». Elbeuf, besogneuse, industrielle, était son royaume. Il s'était fait à l'idée d'y vivre jusqu'à sa mort la vie d'un industriel de province avec peut-être seulement de temps à autre la nostalgie de l'Alsace originelle. Le monde tourbillonnant qu'aime Janine le séduit, mais ne lui enlève pas le sérieux qu'il habite. Il déteste le Ritz et Rumpelmayer. Sa femme dépense sans compter. Quand vient la guerre, déjà quelque chose est brisé. Ainsi qu'elle le note dans son journal en anglais, un journal plein du sentiment de la tristesse et du vide qui pourrait illustrer l'idée du divertissement pascalien. Émile Herzog sert comme officier de liaison à la 8e division écossaise. Ses permissions sont amères. Ainsi qu'il arrive aux soldats, ainsi qu'il arriva à Apollinaire au temps de ses fiançailles avec Madeleine, il ne peut vivre en partie double lorsqu'il revient. Il est comme absent. Et lorsqu'il n'est pas là, elle s'étourdit, reçoit des roses blanches et des hommes lui font la cour. Dès qu'elle le peut, pendant qu'il traîne ses angoisses dans la boue des Flandres, elle part pour Deauville. Elle en aime tout. Et ses maillots de bain lui valent de nouveaux admirateurs. Pour Janine, les êtres se divisent en ennuyeux et amusants. Les Elbeviens sont ennuyeux, les Deauvillais sont amusants. Rien d'autre ne compte. Elle rencontre un jeune dandy américain et sait prendre lui, il y en aura d'autres. L'amant quitte Deauville quand le mari y arrive en permission et, dit-elle, le mari est d'une humeur assommante. « Quand serai-je sage ?» écrit-elle dans son journal. Et quant à lui, il commence à écrire « Pour oublier, dirait-on. » Tout le blessait aux entournures, l'idée de la vie à Elbeuf, l'usine, ce sérieux qui était le sien, la guerre des tranchées, la légèreté de Jeannine, la morsure de l'absence, l'idée de l'amour corrompu, éphémère. Tapant à deux doigts à présent sur la machine à écrire de l'état-major, il comprend que la littérature est le plus puissant et pour lui le seul des remèdes. Il peindra des soldats, des amants trahis, des maris trompés, des industriels, des pays qu'il aime, des hommes d'État étrangers. Il s'est écrit l'héritier d'un royaume de draps, il se donne un royaume de papier. Il sert sous l'uniforme, il doit demander à ses supérieurs l'autorisation de publier. Il le lui accorde à condition qu'il prenne un pseudonyme. Son cousin Frankel a été tué à l'ennemi en 1915, il en prendra le prénom, André. Il vient de traverser un village des Flandres qui s'appelle Mauroy. Il en aime, écrit Bonnat, la sonorité triste qui correspond à l'état de ses pensées, celle qu'on voit transparaître dans le poème que j'ai cité tout à l'heure. Dans Mauroy, dit-il, il y a mort. Il s'appellera André Mauroy. C'est sous ce nom qu'il publiera Les silences du colonel Bramble, Le cercle de famille, Climat, l'histoire d'Angleterre et la vie de Benjamin Disraeli, ce dandy juif et littéraire qui est devenu le premier ministre préféré de la reine Victoria, celle qui fit écrire sur sa tombe les mots d'un psaume « Les rois aiment celui qui parle juste ». Pendant ce temps, Jeannine part vers le sud, Paris subit les zeppelins, la grosse Bertha, la grippe espagnole, elle déteste Elbeuf, Émile n'aime pas qu'elle aille à Deauville, elle aurait aimé l'Égypte. Et la voilà sur la côte d'Azur, si la fin n'était pas si tragique, on croirait une célèbre chanson de Brel à propos de Vesoul. À l'été 1918, il lui annonce qu'il écrira sur Shelley, lui fait remarquer qu'elle ne sait plus à qui elle adresse ses lettres, à Émile ou à André. Elle lui dit « Je voudrais revivre avec toi, je ne pense à rien d'autre ». Puis le ton des lettres change, elle se sent perdue, l'angoisse monte, lui ne voit rien. Préoccupé par ce nouveau livre qu'il commence à écrire et par la mort de son cousin Pierre Herzog, emporté par la grippe espagnole. Et puis ce sont deux lettres terribles où se conjuguent l'amour et le désarroi, et où il lit cette phrase « Je ne veux pas être enterré au Cap d'Aille, toute seule ». Il reçoit le télégramme d'un médecin qu'il ne connaît pas, arrache à grand-peine une permission à son général, et pour finir, Jeannine est internée à la clinique de la Malmaison. Elle en ressort près d'un an plus tard, s'étourdit de fêtes et de rencontres pendant qu'il écrit et met au monde deux fils, dont elle lui avoue qu'ils ne sont pas de lui. Il met toute sa fierté à accepter. Il continuera d'écrire. Il ne croit plus qu'à la consolation des mondes imaginaires. Pour lui, il n'y a pas d'autre issue. Elle lit à présent ses livres. En lisant La vie de Shelley, elle lui dira qu'elle ne savait pas qu'il pouvait parler aussi finement des femmes, comme s'il les comprenait. Mais pour ajouter qu'il aurait pu s'adresser à lui-même, les critiques qu'il adresse à Shelley, plus occupé de son œuvre que de ses amours. Il comprend tout, mais dans les livres. Et c'est un artiste pour lequel, désormais, comme le dit Blake, qu'il cite en exergue de La vie de Shelley, le jardin de l'amour est empli de tombes. Jeannine, revenue de Deauville à l'été de 23, brûle ses lettres devant lui en silence. On la trouve plus belle, plus élégante, plus triste que jamais. Un soir, la fièvre la prend. Le professeur Lévi Solal diagnostique une septicémie, elle meurt en deux jours. « J'avais trouvé la reine dans le vaste monde », écrit Mauroy. « Je l'avais choisie, conquise, perdue ». Il la fera enterrer dans une tombe où il viendra souvent lui parler, mais où il ne la rejoindra pas. Et c'est ainsi qu'est né le plus célèbre d'écrivain d'Elbeuf, cette ville où nous sommes. Cet écrivain qui a tout de même apporté par ses livres, comme il le dit à la fin de son Israëli, dans un monde hostile et froid, une éternelle jeunesse de cœur.
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été consacrée au sexe dans l'histoire du cinéma. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Tchouchane Djargaillan, Lou Quevauvillier, Lila Bozès, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation, Lise Combe, à la technique, Sylvain Latu et Swad Boukorsa. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.